faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais, jamais, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire de celui que Georges Duby surnommait le Platini du XIIe siècle, Guillaume le Maréchal. Mais c'est aussi l'histoire du jeu de paume, ou encore celle de Milon de Crotone, athlète de la Grèce antique. Oui, ce soir, c'est donc l'histoire du sport, d'avant le sport. D'Athènes à Versailles, voici la 41e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Et tu nous prends pour des bourris ?
Oui, 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 ça passe.
Ça, c'est un excellent... Burger.
Winter is coming.
Alors sachez que durant tous les week-ends de l'été, le journal L'Équipe va vous proposer une hérésie pour un historien, à savoir une série d'articles consacrés à l'histoire du sport, d'avant le sport, n'importe quoi, ce qui pourrait paraître inepte, hein, vraiment inepte et même un peu louche aux yeux de l'Académie, se révèle être passionnant, oui passionnant, avec l'apparition entre autres d'une forme de continuité séculaire dans l'attrait du public pour le spectacle sportif. Et alors ce soir, pour sonder cette préhistoire du sport, deux invités au micro d'Inter. D'abord, il est journaliste, rédacteur en chef à L'Équipe, et c'est lui qui coordonne et qui va écrire cette série estivale. Nicolas Herbelot, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue Nicolas. Et puis à vos côtés, il est conservateur au château de Versailles, et il connaît bien l'histoire de cette folie française que fut le jeu de paume. Yves Carlier, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Juste avant les proto-sportifs, nous accueillerons l'intemporel Dominique Besnier. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui est à l'affiche ce soir?
Ce soir, notre invitée est l'actrice, la muse, la femme et la mère des enfants de John Cassavetes, Jenna Rollands.
Jenna Rollands. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Alors ce soir, c'est un petit journal du mondial féminin. Quel est le programme?
On va s'en passer.
Et oui.
Eh bien, une footballeuse rebelle, une capitaine écrivaine et... un footballeur qui se coule.
Oui, question de moustache. Voilà, vous
verrez
ça tout à l'heure. À tout à l'heure, surtout n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans L'Œil du Tigre.
L'Œil du Tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec la finale du top 14 qui a eu lieu hier soir au Stade de France. Victoire du Stade Toulousain contre Clermont, 24-18. L'occasion de s'offrir ce soir une archive de 1984 dans laquelle l'historien Michel Vinocq, le merveilleux Vinocq, chroniquait à la manière d'un conteur les prémices du rugby. Vous allez voir, c'est savoureux. Savez-vous par exemple d'où vient le bouclier de Brennus? Eh bien voici le flashback.
Ce sont donc les Anglais qui ont codifié en noble art le rugby. Cependant, avant les Anglais, dans les siècles passés, les Français avaient pratiqué des jeux de ballon, comme la soule ou la barrette, qui annonçaient le rugby, de sorte que l'importation du jeu n'est pas totale. Il n'en reste pas moins que c'est en 1840 que sont formulées par les Anglais les 37 premières règles du football rugby, le mot rugby étant emprunté au collège de rugby où ces règles furent d'abord mises au point. Certaines de ces règles, nous dit Jean Lacouture, étaient assez cocasses. Règle 19. Aucun joueur n'a le droit de se placer sur la barre transversale pour empêcher le ballon de passer. Règle 28. Un joueur n'a pas le droit d'arrêter la balle avec autre chose que sa propre personne. Et lorsque, en 1892, on crée le premier championnat de France interclub, la finale, qui se joue à Bagatelle, oppose le Racing au Stade français. Les deux clubs n'avaient pas eu de mal à y parvenir, c'étaient les deux seuls inscrits à ce championnat. L'arbitre était Pierre de Coubertin et le Racing Club de France a été le premier champion de France. Dans les années suivantes, le Stade français remporte le plus grand nombre de finales. Et il faut attendre 1899 pour qu'un club du Sud-Ouest, le Stade bordelais, devienne à son tour le champion. À partir de 1904, le célèbre bouclier de Brennus, le trophée porte ce nom-là parce que c'est le nom du graveur Charles Brennus, ce trophée ne quitte plus les bords de la Gironde que pour Lyon, Toulouse ou Perpignan.
Bien, après le merveilleux Michel Vinocq, le rugby et son bouclier de Brennus, voici celui qu'on surnomme le faiseur d'or, l'envoûteur du destin ou le panier à trois points, c'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie.
Ce soir, Dominique, une inspiratrice.
En effet, jusqu'au 22 juin, la Cinémathèque française rend hommage à John Cassavetes et donc indirectement à sa muse Jenna Rowlands. Elle fut son épouse, mais aussi l'interprète de 7 de ses films, dont Faces, Une femme sous influence, Gloria et Love Streams. À travers l'œuvre de ce cinéaste libre et indépendant, elle est devenue l'incarnation d'une certaine idée du cinéma, l'expression du souffle et de l'intelligence face à un cinéma américain formaté.
Et alors, elle est la fille d'un sénateur du Wisconsin.
Oui, et Jenna Rowlands se passionne très tôt pour le théâtre. Elle abandonne ses études pour s'inscrire à des cours de comédie à l'American Academy of Dramatics de New York. C'est là qu'elle fait la connaissance de son mari, le futur acteur et réalisateur John Cassavetes. Jenna débute sur les planches à Broadway et connaît quelques succès, notamment dans Middle of the Night, aux côtés de Edward J. Robinson. À partir de 1954, elle tourne uniquement pour la télévision, où elle apparaît dans de nombreux feuilletons populaires comme Le Virginien ou encore Bonanza.
Et ce n'est qu'en 1958, Dominique, qu'elle fait ses premiers pas au cinéma.
Avec un succès des plus discrets. D'une certaine manière, Hollywood ne lui a jamais réservé les honneurs qu'elle aurait mérités. Malgré sa belle prestation dans Seuls sont les indomptés avec Kirk Douglas en 1962. Sa carrière est alors inégale et intermittente.
Mais heureusement donc, il y a John Cassavetes.
Son époux qui entreprend de la sortir des conventions dès 1963 avec son film « Un enfant attend ». C'est lui qui offrira à Jenna Rowlands ses meilleurs rôles. Elle est ainsi particulièrement émouvante dans Une femme sous influence où les affres d'une vie conjugale empoisonnée par les activités professionnelles de son mari la conduisent au bord de la folie. En 1977, Opening Night lui vaut le prix d'interprétation au Festival de Berlin. Puis avec Gloria, Cassavetes lui permet une nouvelle fois de prouver qu'elle est une comédienne capable des rôles les plus complexes. Dans cet étonnant thriller aux images superbes, elle déborde d'énergie et de vitalité face au tueur de la mafia. Jenna Rowlands compose à nouveau une prestation déchirante dans Love Stream en 1984 aux côtés d'un Cassavetes à la fois machiavélique et émouvant. Ensemble, ils forment un couple mythique et l'une des collaborations les plus fructueuses de l'histoire du cinéma. Peu d'actrices ont eu le cadeau de tels rôles et ont su s'en montrer dignes.
Et d'autres cinéastes, Dominique, ont su apprécier son talent.
Oui, quelques temps avant la mort de Cassavetes, d'autres réalisateurs prestigieux ont enfin semblé découvrir son immense talent et lui ont offert des rôles passionnants. Elle est alors dirigée par Terence Davis, Woody Allen ou Jim Jarmusch. Le cinéma devient ensuite pour elle une histoire de famille, car elle tourne successivement avec son fils Nick et sa fille Zoé. L'œuvre de John Cassavetes est désormais mise à l'honneur dans un coffret de 5 films majeurs. Il nous permet de redécouvrir la filmographie de ce cinéaste incontournable et le talent de sa superbe égérie.
Et bien voici Jenna Rowlands qui nous dit en effet que le cinéma est une histoire de famille.
Je suppose que c'est comme les fils de médecins, ils grandissent et parlent médecine. Moi et mon défunt mari, on filmait beaucoup de choses chez nous. Donc évidemment, quand les enfants sortaient de leur chambre le matin, ils devaient enjamber des câbles et on leur expliquait que c'était un plateau de cinéma. Il y avait toujours une trentaine de personnes sur place en train de travailler. Et je pense qu'ils pensaient que c'était comme ça dans toutes les maisons. Ils étaient totalement à l'aise avec les visiteurs et prenaient les choses pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire du travail. Ils ont ainsi su comment ça se fabriquait, un film, au lieu de commencer, comme la plupart des gens, à aller les voir au cinéma.
Et oui, Jenna Rowlands et John Cassavetes et leurs enfants, une tribu, une famille de cinéma. On peut donc voir Jenna Rowlands à la Cinémathèque française puisqu'il y a la rétrospective consacrée à John Cassavetes jusqu'à la fin de la semaine prochaine, à la fin de cette semaine, Dominique.
Et voir aussi Isabelle Adjani dans Opening Night qui est encore en tournée.
Au théâtre.
Quelque part, voilà, elle rend aussi un hommage à John Cassavetes.
Eh bien, merci beaucoup Dominique Besnier, à la semaine prochaine. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Connaissez-vous Madame Henriette Campan? Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Elle fut la première femme de chambre de Marie-Antoinette entre 1770 et la fuite du roi et de la reine à Varennes en 1791. Et cette Madame Campan a pris le temps dans sa vie de rédiger ses mémoires. Une lecture passionnante sur la vie quotidienne à Versailles où l'on apprend, entre autres choses, que la noblesse pratiquait des activités sportives, notamment des courses de traîneaux l'hiver par exemple. Et certains, ajoute Madame Campan, continuaient à pratiquer la paume, ce jeu de balle qui fut si populaire sous Henri IV, mais tombé en désuétude depuis le Roi Soleil. Le jeu de paume, une folie française.
C'est à la Renaissance que la paume connaît son apogée. Elle sera le passe-temps favori des monarques de François Ier à Henri IV. À la fin du XVIe siècle, les 250 salles que compte Paris font vivre 7000 employés. Aujourd'hui, de nombreuses expressions témoignent de l'importance passée du jeu de paume dans la société française. Rester sur le carreau c'est le sol de la salle, épater la galerie, du nom du couloir dans lequel se trouvaient les spectateurs, ou encore le célèbre et énigmatique « qui va à la chasse perd sa place », directement issu de la règle qui veut que les joueurs échangent leur place sur le terrain pour aller à la chasse aux points, des points mis en suspens sur les échanges précédents. Ce sont ces règlements riches et compliqués qui font du jeu de paume le plus tactique et le plus intelligent des sports de raquette.
Nicolas Herbelot, vous êtes journaliste à l'équipe et durant tout l'été qui arrive à grands pas, vous allez consacrer chaque week-end dans l'équipe magazine une série d'articles consacré à l'histoire du sport d'avant le sport, une idée à la fois passionnante et étrange. Et il sera évidemment question beaucoup du jeu de paume. Ce qu'on oublie, Nicolas, c'est que certes ce fut un sport ancien, séculaire, mais très populaire. Le jeu de paume, c'est un phénomène de société au 15e et au 16e siècle en France.
Extrêmement populaire. Mmh. Yves Carlier en parlera encore mieux que moi tout à l'heure, mais il y avait jusqu'à, je crois, 1200 salles à Paris. Seulement Paris au début du XVIIe siècle.
Yves Carlier.
Peut-être un peu moins.
Mais enfin, c'est quand même colossal. Parce que Paris était petit. Hein,
bien sûr.
Donc c'était vraiment le jeu. Enfin, c'était le jeu des rois, mais aussi le roi des jeux à son époque. Et moi, je me suis intéressé à un maître paumier du XVIIIe, donc plutôt à une époque où on pratique un peu
un
moins.
Un maître paumier, c'est l'homme qui fabrique la balle, notamment.
Alors, pas seulement. Mm. C'est aussi celui qui a la charge d'un jeu de paume.
Oui, bien sûr, c'est une charge.
Qui est finalement un professionnel de l'exercice du jeu de paume et qui est à ce titre souvent demandé à la cour pour des représentations, celui qui donne des exhibitions, qui donne des cours, etc. Ce sont des charges qui sont assez rémunératrices. Moi, mon sujet, en l'occurrence, c'était Antoine-Henri Masson, qui était le meilleur maître paumier du 18e.
Une vedette, quasiment.
Donc, là où c'est assez intéressant, c'est que la paume a quelque part a décru un peu en nombre, mais en qualité, elle atteint des sommets.
Yves Carlier, vous êtes donc conservateur au château de Versailles, voilà un poste prestigieux, et vous connaissez bien l'histoire de la paume. On dit que c'est une activité sportive née en France chez les moines. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Quelle est l'origine du jeu de paume?
Alors, l'origine très lointaine se remonte à l'Antiquité, quand des gens décidaient de s'amuser et d'envoyer une sphère à la main, la pousser
à la paume de la main. Le jeu de paume.
Ils l'envoyaient l'un contre l'autre, ils la renvoyaient, peut-être avec un rebond au sol, on n'en sait rien. Cette manière de se distraire a traversé le temps, le Moyen-Âge, et à partir du 11e, 12e siècle, on a des traces de gens qui jouaient avec une estuffe, les futures balles, à la palme ou à la paume, si vous préférez, probablement et même certainement en plein air, et pas du tout encore dans des salles. Et c'était un jeu qui était donc, comme il a été dit, extrêmement joué par toutes les couches de la population. Et pas
ça, c'est important, c'est important. Ça, c'est évidemment un sport aristocratique, on dit le sport des rois, c'est vrai, mais tout le monde jouait à la paume, en fait.
Alors, c'est une activité qui était jouée par les aristocrates.
Ça, c'est ce côté historien qui a du mal à dire que c'est du sport. Oui. Mais c'est normal. C'est son rôle.
Et par toutes les couches de la population. Il y a eu des édits à partir du XVIe siècle, dont on a des traces, et même avant, qui enjoignaient certaines catégories de la population, qui interdisaient à certaines catégories de la population de ne pas aller dans les salles de paume pour différentes raisons. Après, il y a des histoires morales dont je pourrais parler derrière, mais également parce que ça les distrayait dans leurs activités professionnelles.
Quelles sont les histoires morales?
Les histoires morales, c'est que, alors, j'anticipe un peu sur l'évolution de la paume, il y a eu des paris qui était autour des jeux de paume.
D'accord.
Et bien
des
sûr,
paris sportifs, donc.
Des paris sportifs, bien sûr. Et avec des paris sportifs, il y a toujours eu des affaires de matchs trucs.
Et oui, et d'arnaques, évidemment, évidemment.
Voilà. On n'a rien inventé.
Et oui. Mm-hmm. Et donc, du coup, il y a ce problème-là dès le 16e, dès le 15e siècle.
15e, 16e siècle, mm-hmm. Oui.
Il faut redire, Yves, c'est que, on en a parlé avec Nicolas, mais c'est un sport, effectivement, un sport. Une activité très très populaire et en effet il y a peut-être plusieurs centaines de salles dans un Paris petit, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup, quasiment
on le pratique à toute heure, à tout temps. Alors je reviens à l'explication sur l'histoire de la pompe qui pour rendre plus compréhensible pourquoi il y a autant de salles. Au 15e siècle, on jouait surtout dans les rues, on jouait dans les campagnes, mais on jouait dans les rues, on jouait en extérieur, en plein air, et comme dans certains sports aujourd'hui en Italie, au Palio notamment, à la Pallone, ou au Pays Basque, dans certaines, aux Aldudes, on joue au Lachoa, encore dans la rue, dans les places. Donc on gêne, en fait,
l'activité urbaine, bien sûr.
Donc ces gens qui jouaient à la paume gênaient l'activité urbaine, et il a été décidé alors de, en quelque sorte, les exclure. Et pour cela, deux manières. Soit on les met dehors, et ils ont joué dans les fossés, dans les allées, et c'est devenu plus tard ce qu'on appelle la longue paume. Soit ils ont décidé de rester dans l'espace urbain, se sont mis entre quatre murs, et c'est devenu ce que l'on appelle la courte paume. Mais l'un et l'autre ont eu une originalité, c'est qu'ils ont retranscrit une particularité des rues du Moyen-Âge qui avait des échoppes avec des toitures dessus, et on sait par des miniatures que les balles rebondissaient sur les toitures, notamment lors de l'engagement. Et tant à la longue paume au XVIe et XVIIe siècle qu'à la courte paume encore aujourd'hui, on joue en utilisant les toitures, notamment pour l'engagement.
Oui, ça fait partie du jeu. On a le droit
intégrante
à la toiture.
Du jeu. Ça fait
c'est incroyable, une salle,
Nicolas,
une salle de jeu de paume, c'est incroyable.
Il en reste très peu en France aujourd'hui.
Il en reste très peu. Alors, évidemment, Yves pourrait parler de la plus connue de toutes, celle de Versailles, mais il y en a une où on joue vraiment,
à
qui est rue Lauriston.
Ah non, oui, rue Lauriston à Paris, bien sûr. Oui, on y joue encore.
Oui, absolument. C'est la seule, je crois, à Paris.
C'est la dernière.
Oui, il en reste une.
Et ce sont des salles totalement asymétriques, les salles de jeu de paume, avec un mur d'un côté.
C'est pas du tout un terrain de tennis, par exemple. Ça ne ressemble pas du tout à ça.
Et il y a un mur d'un côté total, et puis sur les deux côtés opposés sont pas les mêmes, et sur le côté opposé au mur, il y a effectivement des chasses, enfin où on peut rentrer les balles, et c'est totalement surprenant, et il y a des avancées comme des toits, effectivement, sur lesquels on peut faire rebondir à l'infini la balle. C'est incroyablement compliqué.
C'est
ça
très
offre,
complexe.
Ça offre des possibilités.
Le jeu de paume est très complexe. C'est un jeu très complexe. Allez-y.
La première fois que j'ai joué à la paume, le maître paumier, parce que la profession existe encore, m'a dit, c'est du tennis parce qu'on est face à face, il y a un filet qui nous sépare. C'est du billard parce qu'on a le droit à autant de rebonds que l'on veut sur les murs et sur le toit, et un seul rebond au sol. Et ce sont des échecs. Parce que c'est une stratégie de jeu où parfois on peut laisser filer la balle, ce qui nous permettra par exemple de récupérer le service.
Voilà. C'est très stratégique effectivement.
Très
aussi.
Stratégique, et la manière dont on appelle les points est complètement déconcertante, unique. Je peux dire, par exemple, 15-0, 30-0, 30-0 chasse, 30-0 deux chasses, passez messieurs. Et à partir de là, c'est chasse de verre ou chasse de dents. Et donc on dit avantage à tel endroit avec une chasse de verre, avec une chasse de dents. Donc c'est un vocabulaire très spécifique, un peu décontenançant. Une fois qu'on l'a intégré, c'est absolument
génial.
Fascinant.
Vous venez de dire 15-0, 30-15, on comprend tout de suite, tout le monde connaît ça au tennis, le 15-A.
Le tennis l'a repris.
Voilà, c'est qu'en fait ça vient du jeu de paume, cette manière de compter des points au tennis. Donc c'est intéressant, c'est un héritage qui a perduré dans les siècles.
Le tennis a aussi repris la tenue en blanc.
Oui,
à l'origine.
Tout en blanc,
c'était,
bien sûr.
C'était au XVIe siècle, même sous l'Ancien Régime, c'était un gage d'hygiène et de propreté. Donc ceci a été repris par le tennis, ce comptage des points, et puis surtout le fait que d'être face à face avec un filet en séparation. Et ce sont du reste des joueurs de courte paume anglais qui un jour en mal d'activité ont décidé de jouer sur un terrain rectangulaire qu'ils ont dessiné sur le sol. Et du reste les Anglais appellent le tennis le lawn tennis et le jeu de paume le real tennis, c'est-à-dire le vrai tennis.
Nicolas, un mot sur le tennis que tu voulais ajouter?
Oui, non, mais le tennis a pris sa place au jeu de paume finalement.
Oui, bien sûr, ça l'a remplacé.
Au cours du 19e siècle, l'a remplacé avec des règles beaucoup plus simples.
Oui.
Mais la complexité des règles du jeu de paume, il y a une chose moi qui me semble, je la comprends pas, mais qui me semble très intéressante, c'est qu'avec les phénomènes de chasse, on pouvait partir avec des handicaps. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, un joueur très chevronné peut jouer face à un joueur de niveau très inférieur en se mettant quelque part des handicaps. qui limite son
jeu.
Oui,
c'est intéressant.
Et du coup, et ça, bon, alors, on le retrouve d'ailleurs dans les défis qu'a pu lancer Masson
au 18e.
Voilà, oui, il y a un match
à Londres, je crois,
voilà, en 1767, qui est un match extraordinaire où il va défier les meilleurs pommiers anglais.
Mais il part avec du handicap.
Et il part avec du handicap. Et ça l'empêche pas de gagner.
Et il gagne quand même.
Mais il part avec du handicap parce que les paris, Masson était tellement réputé, et sa réputation le devançait tellement, que tous les paris allaient pour Masson. Donc, comme les paris étaient très importants,
il fallait équilibrer
ça, donc il avait des handicaps.
Bien sûr. Yves Carlier, on a dit que c'était donc le sport des rois, mais ce n'est pas le sport du roi soleil. Louis XIV va sans doute enclencher le déclin.
Non. Alors racontez-nous. Louis XIV, Louis XIII a énormément, son père a énormément joué à la paume. J'ai eu l'occasion de dépouiller le journal de Horoir, Le Médecin. Plus de 800 parties de paume qui sont référencées pour le père de Louis XIV en très peu de temps. Louis XIV a joué dans sa jeunesse, tout le monde en parle, Saint-Simon, Perrault en parle, donc c'est indéniable. Dans le journal du médecin de Louis XIV, on s'aperçoit qu'il a eu un problème à un bras une trentaine d'années à peu près, et c'est manifestement ça qui a fait qu'il a arrêté de jouer. Par contre, la preuve que la paume était importante, c'est que son fils, le grand dauphin, a été un grand joueur de paume. C'est lui qui a inauguré le jeu de paume de Versailles, celui qui existe encore, en 1689. Première partie, c'est lui qui l'a joué.
1689, c'est ça, un siècle avant le serment, du coup, c'est assez intéressant.
les petits-fils du roi, le duc de Bourgogne notamment, ses enfants également, jouaient à la paume. Louis XV, on ne le sait pas, il jouait peut-être un peu au volant dans sa jeunesse. Le duc d'Orléans.
Au volant,
qui est une variante. Le duc d'Orléans, le régent, jouait à la paume. On a des traces de partie du duc d'Orléans à Vincennes. Et Louis XVI ne jouait pas à la paume, mais ses frères jouaient à la paume, et notamment le comte d'Artois, qui a fait construire le jeu de paume de Paris, qui est aujourd'hui le théâtre des Jazets, par exemple.
D'accord.
C'est une construction du frère de Louis XVI.
Et d'ailleurs, les maîtres paumiers comme Masson étaient appelés à la cour sans arrêt.
Hein. Oui.
Mais c'est impressionnant. Si c'était pas Marie-Antoinette, c'était le roi.
Oui, bien sûr.
Ils y allaient plusieurs fois par semaine, donc il y avait une vraie passion encore.
Yves Carlier, comme nous sommes à Versailles, à la veille de la Révolution, je crois qu'il reste une petite quinzaine de salles dans Paris. C'est un sport un peu...
12
salles, voilà, à Paris, à la veille de la Révolution. C'est un sport en jachère, on va dire, à ce moment-là. Mais le 20 juin 1789, le jeu de paume va rentrer dans l'histoire de l'humanité, avec un moment devenu célébrissime. Vous nous rappelez un peu l'épisode? C'est quoi ce serment
alors,
de
lors,
jeu de paume
lors, bon, lors des états généraux
à Versailles.
Qui avaient eu lieu à Versailles, dans la salle des menus plaisirs, donc c'était au moment où il y avait la grosse discussion vote par tête ou vote par corps.
Très important. Et il y a le tiers état, la noblesse et le clergé. Et c'est une discussion importante parce qu'en fait il y a deux contre un, puisqu'il y a trois corps. Et en fait on veut plutôt faire voter par tête pour être plus majoritaire. Hein, voilà.
C'est le principe. Et donc il y a eu un moment comme les choses commençaient à sérieusement déraper pour le pouvoir. Il y a eu une fermeture de la salle des états généraux. Et certains députés du tiers ont décidé alors de se rassembler dans le jeu de paume. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de ne pas se séparer avant d'écrire une constitution pour la France.
Donc le serment du jeu de paume qui est vraiment historique de l'histoire de France et quasiment presque mondial, puisque ça enclenche quand même la Révolution française avec une assemblée constituante, quand même, ce qui n'est pas rien.
C'est le moment fondateur où on écrit une constitution qui est en dehors du système monarchique.
Ah oui, absolument. Alors on va continuer à parler du sport, d'avant le sport, mais pour l'instant il est 18h32 sur Inter, c'est l'heure de l'orchestre emmené ce soir par Aurel San, le titre joué Dis-moi, ainsi soit-il, Dude.
Laisse-moi tout expliquer, le problème c'est l'ennui, parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille, je fous rien toute la journée, je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi, je fais n'importe quoi, faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'alcool. Ça commence par un verre. Et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est les autres. Quand j'essaye de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. 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 Cette fille-là, pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi, pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. 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 Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. J'arrive plus à penser, donc il faut que je décompresse. mais je vais beaucoup trop loin. Je contrôle plus rien, y'a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir?
Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
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 L'œil du tigre.
Milon de Crotone, qui est le premier athlète de l'histoire de l'Antiquité. Avec Milon, on voit surgir dans le courant du 6e siècle avant Jésus-Christ cette figure nouvelle dans les cités, qui est la figure de l'athlète, c'est-à-dire d'un individu qui dédie toute son existence à la préparation sportive et qui est entièrement orienté vers les compétitions.
Philippe Collin.
Il est vainqueur olympique à 7 reprises, d'abord comme enfant et puis ensuite à 6 reprises comme adulte, ce qui est sans équivalent à l'échelle de l'ensemble des athlètes de l'Antiquité.
Sur France Inter. Milon de Crotone, athlète antique, dont vous pourrez lire le destin hors norme dans cette série d'articles que va consacrer cet été le journal L'Équipe tous les week-ends dans L'Équipe magazine. Série dédiée au sport d'avant le sport, une série où vous pourrez croiser ces proto-sportifs, héros de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Série où vous découvrirez pourquoi Milon de Crotone n'a pas usurpé son statut de légende à travers les siècles. La vie de Milon de Crotone, ce fut une succession d'exploits dignes d'Hercule.
Parmi les plus connus, celui qui consiste à avoir transporté un taureau au travers du stade d'Olympie, puis à l'avoir assommé et tué d'un coup de poing, puis l'avoir consommé en un seul repas. Deuxième exploit qui lui est prêté, celui d'avoir transporté sa statue, celle qui avait été érigée à son effigie et ensuite exposée dans l'enceinte d'Olympie. C'est une figure qui a en fait cristallisé l'idée de la puissance physique, de la force, de l'énergie, on peut même dire de la vitalité.
Nicolas Herbelot, je rappelle donc que vous allez coordonner et puis rédiger cette série d'articles qui paraîtra donc tous les week-ends cet été dans L'Équipe, consacrée donc à ces sportifs ou à ce sport d'avant le sport. Ce qui est intéressant avec Milon de Crotone, c'est qu'il fait quand même écho au présent. Il y a quelques semaines, L'Équipe Mag avait mis en une Conor McGregor, qui est une grande vedette du MMA, qui est donc le sport de combat aujourd'hui qui fait rage dans le monde entier. C'est une grande vedette, Conor McGregor. Et c'est vrai qu'en regardant la vie de Milon de Crotone, je dis tiens, c'est étrange. C'était il y a très longtemps, au 6e siècle avant notre ère, mais il fait écho au temps présent. C'est-à-dire que sa force, son côté pugilistique, voilà, ça parle aujourd'hui en fait. C'est intéressant ça.
Oui. Il est l'homme le plus fort de l'Antiquité. Mm-hmm. Et il est la première star du sport. Moi, j'ai pas de problème sur la dénomination.
On dira un mot avec ça, avec Yves Carli après.
Puisqu'il était 7 fois champion olympique, comme le disait oui. Jean-Manuel Roubineau à l'instant.
Absolument.
Et si vous voulez, c'est un peu le premier qui est très connu de par sa stature d'homme, d'athlète. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des mythes, il y a des légendes, y compris qui l'entourent lui. Mais si ces mythes et ces légendes ont existé concernant Milon de Crotone, c'était parce qu'il était aussi fort. Et y compris d'ailleurs, et c'est en ça que ça fait écho au sport d'aujourd'hui, y compris parfois moqué. Du coup, parce que le muscle, par opposition au cerveau,
déjà à l'époque.
Mmh, quoi. Mmh. Donc parfois on l'a moqué, parfois on lui a prêté des défaites qui en fait ne sont pas le cas. Quoi. Par exemple, une incapacité à soulever une masse incroyable que quelqu'un. Et en fait, cette personne n'est jamais venue l'affronter lui. Alors il était lutteur. Hein.
Oui.
Mmh. Il était lutteur et probablement parce qu'il aurait une défaite olympique, mais probablement que cette défaite olympique était au pancrace parce que son adversaire était supposé avoir su l'éviter, ce qui est impossible en lutte. Puisqu'on s'attrape. Mais oui, c'était un homme très fort, un colosse, probablement au moins 2 mètres de taille, et un personnage qui, de par sa pratique sportive, c'est là vraiment, j'insiste, c'est en ça que c'est le premier, de par sa pratique sportive, est devenu quelqu'un d'incroyablement connu, puisque même Pythagore, lorsqu'il s'installe à Crotone, cherche à le faire entrer dans sa communauté, on dirait peut-être une secte aujourd'hui, et il épousera la fille de Pythagore.
Incroyable. Yves Carlier, je rappelle, vous êtes donc conservateur à Versailles. Parlons un peu de cet hérétique de Nicolas Herbelot, qui donc du coup va consacrer une série du sport avant le sport. Je plaisante, mais vous avez des études classiques. Le travail de l'historien, c'est de respecter le passé, de respecter avoir une sorte de respecter la réalité du passé. En tout cas, la série est passionnante. Mais vous, est-ce que ça vous pose un problème, entre guillemets, j'entends bien, qu'on appelle ça des sports, des sportifs? Est-ce que c'est un peu compliqué pour vous?
J'emploie moi-même le mot sport, ne vous inquiétez pas. Mais
dans votre démarche de scientifique et d'intellectuel, ça peut être compliqué.
Je viens d'écrire un article sur Henri II jouant à la paume à Saint-Germain-en-Laye, après la rénovation du jeu de paume de Saint-Germain-en-Laye en 1552, donc vraiment un moment très spécifique. Je n'ai jamais employé le mot sport.
Ah oui. Oui,
j'ai employé le mot divertissement...
Oui. Oui. Mais c'est parce qu'en fait, oui, le mot n'existe pas d'ailleurs.
Non, il n'existe qu'à partir du 19e. Voilà. Il vient de despot.
Oui, despot.
Mot français. Qui voulait dire plutôt loisir.
Voilà, esprit et sport. Mais donc, en fait, oui, donc vous, en tant que historien et conservateur, vous n'employez pas ce mot parce que il n'existe pas et il ne veut pas dire grand chose à l'époque dont
comme
que
je
vous
joue
parlez.
À la paume actuellement, comme vous avez compris, je fais du sport.
Oui, oui. Mais là, c'est là où c'est intriguant.
La paume ne l'était pas, mais elle est devenue.
Oui, elle est devenue,
Cela dit, il n'y avait pas de compétition pour définir qui était le meilleur.
Oui,
le champion du monde de paume, ça n'existait pas.
C'est une vraie différence.
En revanche, quand on parle de Milon de Crotone, il y avait les concours olympiques.
Oui, bien sûr, déjà, évidemment.
Là, il était le meilleur.
L'olympisme antique, évidemment.
Au XVIIIe siècle, c'était des défis.
Oui.
Enfin, on parle d'Antonin Rimasson tout à l'heure.
Oui, on se défiait. Comme le duel, quelque part, d'ailleurs.
On se défiait, il y avait différents types de défis. Il y avait ce qu'on appelle la chouette à 2 contre 1.
Qu'est-ce que c'est que ça, la chouette?
La chouette, vous êtes tout seul et vous jouez contre 2 adversaires.
Ah, à la paume. Voilà, ah, mais ça, paume. Oui. Je crois que c'était autre chose.
Non, désolé. Et Antonin Rimasson, donc, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire des parties complètement extravagantes. Il y en a une où il jouait avec son partenaire dans un cerceau.
Ah oui, d'accord. Ah oui,
il se mettait des contraintes.
Ah oui,
une autre où il était incroyable, la plus incroyable, c'est qu'il jouait dans un tonneau à la réception et au service. C'est-à-dire, il servait d'un tonneau.
Il fallait sortir du tonneau.
Il fallait sortir du tonneau, renvoyer la balle.
C'est vraiment interdit, là.
Se retourner dans le tonneau dès qu'on avait touché la balle avec sa raquette.
Ah, mais c'est incroyable.
Et c'est pareil à la réception du service.
D'accord.
Il y en a d'autres où il jouait sur un âne. Donc, essayer de guider un âne dans un jeu de paume. Donc, il avait a priori une capacité physique à pouvoir se pencher pour aller récupérer la balle, avec sa raquette.
Incroyable.
Donc des choses complètement extravagantes et
un prodige.
Un prodige. Alors on parle d'historien, on parle de respect du passé, etc. En effet, moi il y a un historien que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges Duby, qui est un grand médiéviste français. Et donc dans cette série d'été écrite par cet hérétique de Nicolas Herbelot, vous allez lire le portrait donc d'un chevalier du Moyen-Âge auquel l'historien Georges Duby a consacré une excellente biographie. Ce chevalier s'appelait Guillaume le Maréchal. Et nous allons prendre un petit peu de temps. Ça dure 2 minutes 10, mais on va écouter ce son parce que nous sommes donc au 12e siècle, hein. Enfin, pas tout à fait, Georges Duby c'est dans les années 80, mais écoutez ce son, Duby parle donc de ce Guillaume le Maréchal.
Cadet de famille, il a quitté d'abord la maison familiale très tôt et son père l'a envoyé faire son apprentissage de guerrier chez un de ses cousins. Et là, il a appris à monter à cheval, à combattre, etc. Et vers l'âge de 20 ans à peu près, alors il est entré dans l'ordre de la chevalerie. Et alors, que faire? Eh bien, il a fait une carrière sportive. N'est-ce pas? Ça, c'est très important parce que il y avait à l'époque quelque chose qui correspond très exactement à ce que pouvait être l'organisation d'un sport comme le football aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait des matchs qui se déroulaient tout au long de l'année, qui étaient organisés, et dans lesquels il y avait des champions, et ceux qui étaient vraiment très bien faisaient fortune. C'est pas, Guillaume le Maréchal, c'est le Platini du XIIe siècle. Le tournoi de l'époque, parce que ces matchs étaient des tournois, ça n'est pas du tout ce qu'on imagine, ça n'est pas 2 combattants qui s'affrontent, un duel, n'est-ce pas, une joute, pas du tout. Ce sont 3 ou 4 équipes qui se lancent les unes contre les autres. Là, il y avait à peu près 10 000 combattants. n'est-ce pas, qui se battent, non pas sur un terrain, mais sur un immense espace, avec des accidents, n'est-ce pas, on se bat dans les villages, à l'intérieur des bois, on utilise tous les accidents de terrain, et on n'y va pas de main morte, parce que il s'agit bien sûr de gagner la partie, mais pour chacun des combattants, il s'agit aussi de faire des prisonniers, de capturer les autres, de prendre des chevaux, de prendre des armes, de prendre des hommes et de les mettre à rançon. Et alors, c'est extrêmement violent. L'Église de l'époque essaye d'interdire les tournois parce que, à ce moment-là, s'il y a la croisade, donc, il faut pas abîmer les soldats du Christ, il faut pas qu'on les tue. Mais, en fait, il y a toujours des morts et il y a beaucoup de blessés. Et puis, surtout, il y a une espèce de jeu d'argent qui se mêle. Voilà. Et à la fin du tournoi, alors, les prisonniers payent leur rançon et les vainqueurs, évidemment, jette l'argent par les fenêtres, parce que parmi les qualités de la chevalerie, les vertus de la chevalerie, il y a le désintéressement, on ne doit pas garder l'argent.
Nicolas Herbelot, vous avez donc un compagnon d'hérésie, puisque Georges Duby annonce que le maréchal est donc le platoche du XIIe siècle. C'est assez surprenant, mais je trouve ça assez savoureux. Néanmoins, soyons sérieux deux secondes, ce Guillaume le maréchal, ce soir, je pense que pas grand monde connaît ce nom, mais à l'époque, hein, au XIIe siècle, c'est une personne très 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 connue.
C'est un personnage fascinant. Non seulement il a été le meilleur tournoyeur, il a fait des dizaines de tournois où il aurait pu laisser la vie. Mm-hmm. Il a fait, je crois, 4 ou 5 batailles pour de vrai.
En général, il est fort, on ne sait que deux. Hein, oui. Voilà, on ne sait que deux. Lui, on a fait 5.
Il est allé en croisade à Jérusalem ou mm-hmm. en Syrie, je crois. Mm-hmm. On sait assez peu de choses. Enfin, il est mort à 74 ans.
Oui. Ce qui est une prouesse inouïe.
Incroyable. Mm-hmm. Il a servi 5 rois anglais. Henri Plantagenet, ses enfants, Henri le Jeune, Richard Cœur de Lion, Jean Santerre, puis le fils de Jean Santerre.
Vous n'êtes pas tant que ça hérétique, vous assurez un peu sa bonne histoire.
Henri III. Et c'est intéressant parce que quand Henri III accède au pouvoir, il n'a que 9 ans. Et du coup, Guillaume le Maréchal se retrouve régent du royaume. Quoi. Donc c'est une vie ahurissante pour quelqu'un d'extraction finalement assez modeste qui s'est fait un nom d'abord par le tournoi. Mm-hmm. Il était chevalier errant au départ.
Et on appelle ça un tournoyeur, donc. Hein.
C'est un tournoyeur.
Yves Carly, vous connaissez, je l'ai dit 3 fois, mais très bien l'histoire du château de Versailles. Je parlais de Madame Campan tout à l'heure, donc avec ses mémoires. C'est vrai, quand on lit Madame Campan, on s'aperçoit qu'il y a des activités physiques pour la noblesse. Notamment, il y a les courses de traîneau dont elle parle, qui ont l'air fascinantes entre Paris et Versailles l'hiver.
Surtout fatigant pour les chevaux. Hein.
Oui. Non, vous avez raison, en fait. Vous avez raison. Oui, ils sont sur des traîneaux et il faut être un cheval. Donc,
La principale activité physique, c'est la chasse.
La chasse, évidemment, c'est le grand bonheur. C'est la grande activité physique. Mais est-ce qu'il y a des activités physiques où c'est vraiment là, du coup, pas du tout... Il y a la paume un peu, j'imagine, mais il n'y a pas grand-chose d'autre.
Le XVIe siècle était beaucoup plus sportif. Comme l'a été la cour de Versailles. Il y avait d'abord les joutes, les tournois, qui avaient complètement disparu au XVIIIe siècle.
Remplacé par le jeu de paume.
Ça, on est au XVIe, c'est ça, hein.
Au XVIe siècle. Si je prends le XVIe.
Donc le tournoi, vraiment le tournoi. Mm-hmm.
Et il n'y a pas vraiment d'activité sportive telle qu'on les imagine aujourd'hui. Je prends ce merveilleux exemple de la princesse Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, qui dit après le repas, elle va se promener dans le parc de Fontainebleau, mais en carrosse. elle dit, je vais me secouer la rate, c'est l'expression qu'elle emploie pour digérer, mais elle y va en carrosse. L'activité sportive ou l'activité physique.
Oui, c'est
mais par contre, on marchait beaucoup, on était à cheval, on montait à pied, pas d'ascenseur, donc il y avait une dépense physique au quotidien. Oui. Que nous n'avons peut-être pas aujourd'hui.
Oui, bien sûr, mais ça c'est très juste. On a changé de mode de vie et à mon avis, à cette époque-là, le sport se faisait aussi dans la pratique quotidienne de la vie.
Parce qu'après les tournois que racontait si bien Duby, on est arrivé aux joutes qui n'étaient pas sur un très grand terrain, qui n'étaient pas avec 2 mesnies qui s'affrontaient comme ça, mais juste deux jouteurs, quoi, mm-hmm. deux chevaliers. Ce qui est un peu resté en imagerie d'ailleurs dans l'esprit de chacun et notamment par le cinéma, avec juste une lance et on s'affronte à cheval, chacun de son côté et boum, on se fait tomber, quoi. Et ça, assez rapidement du coup, c'est la fin de cette activité-là. Mais juste par rapport au tournoi, qui était une activité de la noblesse et parfois des grands bourgeois, il y avait par opposition une activité très très populaire qui était la soule.
Ah oui, la soule, bien sûr.
C'est un peu la même chose. Deux camps sur une zone incroyablement vaste où on doit marquer des buts, enfin, on peut les appeler comme ça.
Oui, une sorte de proto-foot.
Avec un seul ballon, et voilà, un proto-foot, comme il y en a toujours eu à travers le temps,
mais
qui était contemporain des tournois et qui concernait la population plus générale.
Et surtout, la soule permettait au village de se rentrer en compétition.
Entre les villages.
Entre les villages.
Voilà. Déjà le clocher quasiment, quoi. Oui, les batailles de clocher.
Oui, c'est une bataille de clocher.
Absolument. En écoutant le son de Duby cette semaine au bureau, on s'est dit avec Mutel qui met en scène cette belle émission, qu'en fait c'était assez amusant parce que ces grands tournois là, comme ça, du 12e siècle où il y a 10 000 participants, on s'est dit qu'en fait les gamins aujourd'hui qui jouent à Fortnite par exemple, en réseau mondial, non mais c'est assez intéressant. C'est qu'en fait, cette espèce de. Alors c'est pas un sport la console vidéo, mais quand même, ça nous a rappelé ça. T'as, tout d'un coup, ces gamins en connexion qui jouent à des jeux de guerre, etc. Et ça, on dit tiens, Guillaume le Maréchal serait peut-être aussi très populaire aujourd'hui dans ces connexions de combat à milliers de personnes. En fait, c'est assez étrange ça aussi, comme parallèle.
Oui, on peut. Pourquoi pas?
Là, l'hérétique, il se dit. Ouais,
ou la soude. Non, non, j'ai réfléchi.
Non, alors, la série se termine, Nicolas Herbelot, sur un autre type de sport qui va faire la connexion finalement entre le monde d'avant et le monde du XXe siècle, qui est ce qu'on appelle les milers. Donc ça, c'est un sport en Angleterre qui va naître là. Il y a une figure emblématique, hein, ça va se terminer avec lui sur ce portrait.
Walter George.
Walter George, évidemment. Alors, qui sont ces milers? Qui sont ces types qui sont finalement le vecteur entre ce monde d'avant et puis ce monde du XXe siècle?
Voilà, là, on se rapproche vraiment de ce que va être l'athlétisme qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est pratiqué d'une façon totalement différente, qui est, on parle encore de pedestrianism à l'époque en Angleterre.
C'est de la marche, hein, voilà.
Voilà, c'était de la marche. Et c'est vrai que c'est né des marcheurs, enfin, l'idée était que les nobles faisaient concourir et pariaient, on en revient à la notion de pari qui a fait énormément dans l'histoire du sport, hein, on n'a rien inventé, et qui pariaient sur leur valet pour savoir celui qui irait le plus loin, le plus longtemps à la marche. Et puis la population a commencé à parier sur ces marcheurs, et puis ces marcheurs se sont mis à courir, etc. Puis ces coureurs sont rentrés dans les stades.
Et voilà, très important, ils rentrent dans les
ils
stades.
Ils rentrent dans les
donc,
stades, et ils tournent
ici,
autour.
La structure du
voilà,
stade.
La structure du stade qui apparaît dans les années 1850-1860. Et en 1870-1880, la popularité de ces courses à pied sur lesquelles on parie, alors ça ne concerne que deux athlètes, hein, c'est un match à deux, et on parie sur l'un, sur l'autre, etc. Et dans les années 1880, la grande figure, c'est Walter George, qui était un coureur à pied, un miler, très en avance sur son époque.
Miler parce qu'il court un mile.
Parce qu'il court un mile,
c'est
voilà.
Ça, c'était un mile
avant
une
que le système métrique ne s'impose par le biais des Jeux Olympiques rénovés par Coubertin, même si la distance du mile reste la seule qui reste encore aujourd'hui pratiquée, donc 1609 mètres.
Voilà, 1609 mètres.
Et quelques centimètres.
Et quelques centimètres. Et lui, donc, il passe sous la barre des 4 minutes, je crois, c'est ça?
Il fait 4 minutes 12.
4 minutes 12. 4 minutes 12 mais c'est Bannister qui passe sous les 4 minutes.
Mais le jour où il fait ses 4 minutes 12 au stade de Lily Bridge à Londres, on sait que quelques semaines avant, en préparation, il a couru 4 minutes 10, mais les gens n'en ont pas cru leur chrono. Ils ont vérifié la longueur de la
mile,
piste. Et en l'occurrence, il avait même couru un peu plus. Il a couru 6 yards de plus. Ce chrono-là, il n'a pas été battu avant 1931.
Eh oui, incroyable. Pendant presque 40 ans, finalement, il a resté un record imbattu. Il paraît que le mile revient à la mode un peu.
Le mile. Il y a même des mouvements qui disent sauver le mile.
Eh oui.
Donc il est encore couru, mais il est couru évidemment aux États-Unis dans les grands meetings américains. Il est couru en Angleterre encore très régulièrement. Il est couru à Oslo lors du grand meeting au Bislett tous les ans. C'est une distance qui reste et qui cause.
Il est présent. En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. Je précise que vous pourrez donc lire tout l'été dans l'équipe magazine, donc chaque week-end, cette série d'articles hérétiques et jubilatoires consacrés à ces sports d'avant le sport. Une série coordonnée par Nicolas Herbelot, évidemment, et en collaboration entre autres avec Yves Carlier pour cette histoire du jeu de paume. Merci beaucoup à vous deux, messieurs.
Prenez soin de vous.
Restez avec nous, car revoici maintenant le Give Me Five de Joey Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Eh bien rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir?
Encore un big up évidemment et encore un big up à l'équipe de football américaine, enfin donc les footballeuses américaines qui jouent en ce moment même d'ailleurs au Parc des Princes là, qui sont un petit peu en train d'exploser le Chili tranquillement.
Il y a 3-0. Combien 3-0, d'accord.
On est à la mi-temps, mais elles se font pas bien mal.
Mm-hmm.
Voilà, je vous avais déjà parlé hein, d'Alex Morgan, vous savez, la capitaine donc de l'équipe de football des États-Unis, qui a annoncé que même en cas de victoire de la Coupe du Monde, elle ne se rendrait pas à la Maison-Blanche en raison de son désaccord politique avec Trump. Eh bien, il y a fort à parier qu'elle sera suivie dans sa démarche par quelqu'un qu'on connaît peut-être un peu moins, qui s'appelle Megan Rapinoe, qui est une brillante milieu de terrain. Alors là, elle est sur le banc aujourd'hui,
ce soir,
mais on n'est pas à l'abri qu'elle rentre tout à l'heure. Et la semaine passée, voilà, elle a refusé de chanter l'hymne américain, ce qui ne se fait plus. Donc voilà, elle est restée visage fermé, main dans le dos. C'était face au match contre la Thaïlande, alors là où ils les avaient humiliés 13-0.
13-0, en effet.
Bon, voilà. Et vraiment, c'est la militante, voilà, qui qu'on connaît le mieux chez les Américaines. Et en fait, Megan Rapinoe est en couple avec une basketteuse, Sue Bird, et elle explique que même si elle aime son pays, elle refuse désormais de chanter son hymne en guise en fait de protestation à un président qu'elle qualifie de sexiste, misogyne, mesquin, raciste, enfin je vous épargne toute la liste. Et à noter que c'est pas la première fois que voilà que Megan Rapinoe boycotte l'hymne américain. En 2016, elle s'était agenouillée pendant celui-ci à plusieurs reprises pour soutenir le joueur de foot américain, vous savez, Colin Kaepernick. Et elle devenait alors la première femme et la première personne blanche à suivre le footballeur américain.
Dans son exemple, oui, bien sûr.
Donc décidément, en plus de dominer le football, les joueuses américaines sont aussi sur les plus hautes marches du podium en termes de lutte pour l'égalité hommes et femmes.
Et oui, et des redoutables footballeuses américaines qu'on doit peut-être affronter en quart de finale si tout va bien. Donc.
Ouais, on a un peu peur. D'ici là, demain la France doit affronter le Nigeria. Une équipe comme beaucoup, vous me direz, qu'on connaît mal. Alors en quelques mots, retenez des Nigérianes. Ceux-ci, on les surnomme les Super Falcons. C'est la meilleure équipe africaine. Elles ont gagné 11 Coupes d'Afrique des Nations depuis 1991. Ce qui est quand même plutôt bien. C'est la seule équipe africaine à avoir déjà disputé un quart de finale de Coupe du Monde, c'était en 99, et leur star s'appelle, comme ça vous connaîtrez au moins un nom et vous pourrez vous la raconter demain,
ouais.
Leur star s'appelle Assissat Oshaala, voilà les attaquantes, et on verra si...
Une excellente joueuse. Et pour mieux connaître Amandine Henry, là c'est la capitaine des Bleus, un livre existe est écrit de ses propres mains.
Alors là je suis tombée tout à fait par hasard, dans une librairie. C'est un livre sorti le mois dernier aux éditions Rajo, c'est un livre jeunesse, qui s'intitule « Croire en ses rêves, le journal d'une championne ». Bon bah le pitch, je vous le fais pas plus que ça. C'est Amandine Henry qui raconte voilà comment depuis ses 5 ans elle joue dans une équipe mixte. Elle arrive à Clairefontaine.
Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'après ça part forcément d'une équipe mixte et elle est dans une Coupe du Monde aujourd'hui.
Elle fait partie d'une génération extrêmement intéressante qui a vu le football féminin évoluer.
Absolument.
Voilà, donc c'est très intéressant.
Eh bien on souhaite au livre d'Amandine Henry le même engouement que suscite cette Coupe du Monde, Joy.
Exactement.
Ah oui.
Parce que sachez que plus déjà 1 million de billets ont été vendus. Et sur les 52 rencontres de cette Coupe du Monde, 14, alors c'est déjà mort, c'est guichet fermé, dont les 3 matchs de poule des Bleus, les demi-finales et la finale à Lyon. Mais pour celles et ceux qui souhaiteraient encore assister à des matchs, sachez qu'il reste 300 000 billets disponibles à la vente à des prix vraiment très abordables. Alors emmenez vos mômes voir un match de Coupe du Monde, c'est fabuleux, c'est fantastique, objectif, promettez-le. Plus un siège vide pour cette
Coupe du Monde.
Absolument.
Allez voir cette match de Coupe du Monde en France. Et pour finir, j'ai ton conseil culturel du jour.
Eh bien, c'est un documentaire consacré à l'équipe de France de foot masculine.
Eh oui.
Un petit peu de parité tout de même. Intitulé « C'était écrit ». Réalisé par Dominique Rouche et Karim Rissouli et qui sera diffusé ce soir à 20h50 sur France 5. Alors, à première vue, un film sur la victoire des Bleus le 15 juillet 2018 lors de la Coupe du Monde. Ça fait pas, en tout cas, ça fait plus rêver. Hein. On a l'impression d'avoir tout vu et entendu à ce sujet, on a un peu marre. Eh ben en fait, non.
Pour gagner, l'équipe de France a surtout compté sur son travail et son talent, mais elle avait aussi une botte secrète. Au fil de la compétition, un joueur s'est imposé comme leur porte-bonheur, Adil Rami. Sa moustache est devenue le gris-gris du groupe. Ses partenaires viennent la toucher avant chaque rencontre.
Je crois que c'est Olive et Antoine, avant de rentrer sur le terrain, boum. Ça nous a touché. Et puis là, on gagne un match, deux matchs, et on avance. Et à chaque match, voilà, tout le monde a voulu la toucher et c'est venu comme ça.
Oui, oui, on a tous touché la moustache d'Adil. Pour nous, c'était le porte-bonheur.
Rami, de l'intérieur, c'était quoi?
Rami, c'est vraiment c'est le bout en train de l'équipe. C'est celui qui met l'ambiance. C'est celui qui... Dire honnêtement, le rôle de Rami, il n'est pas évident hein, parce que c'est le seul joueur de champ, je crois, qui n'a pas joué une minute pendant cette Coupe du Monde. Enfin, moi, il m'a étonné parce qu'il a vraiment toujours gardé ce bon esprit jusqu'à la fin.
C'est l'équipier vraiment parfait pour une Coupe du Monde.
Rami, c'est un peu c'est l'effet un peu qui se coule de l'équipe de France, quoi.
L'effet qui se coule, voilà. La moustache d'Adil, le gris-gris des Bleus, la diversité des intervenants, en fait, des joueurs, eux-mêmes, à l'écrivain Olivier Guèze, en passant par Nathalie Yanetta ou François Hollande. Et surtout, le message de ce film change et fait voir ces bleus à la deuxième étoile, donc différemment. Parce que non, ils ne sont sans doute pas les héritiers des héros, voilà, vous savez, Black, Blanc, Beurre de 98, mais plutôt des gamins traumatisés par Nice-Na, en fait. Des gamins animés d'une volonté féroce de faire à nouveau aimer le foot à toute une France, une France dans laquelle ils se reconnaissent. Voilà, pour eux, soyons honnêtes, rien que dans leur tête à eux, en tout cas, c'était écrit. Ils allaient être champions du monde, et ils le devaient. C'est ce qui est très beau dans ce documentaire. Espérons maintenant que leur destin inspire celui des filles, et oui, qu'elles aussi, bien sûr, nous fassent rêver.
Évidemment, cette génération, elle est effectivement plus les enfants de cette Coupe du Monde en Afrique, à Nice-Na, qui avait été un drame total, que plutôt cette génération 98. Ils sont venus relever le défi, c'est ce que raconte le film.
Et qui change un peu.
C'était écrit un documentaire de Dominique Rouche et Karine Rissouli à voir ce soir à 20h50 sur France 5. Merci, Joy.
Mais de rien,
Colin. À la semaine prochaine. Salut. Et voilà, cette 41e émission de notre saison 4 a été coachée ce soir par H2M, Henri-Marc Mutel. Merci Marco, assis ce soir à la technique de Mathias Alléon. Le retour de Mathias Alléon, merci à toi Mathias. Merci à toute l'équipe de L'œil du tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine avec la dernière émission de la saison. Ce sera un second numéro en ce mois de juin consacré à cette Coupe du Monde de football justement féminine qui bat son plein et qui est en train de devenir un authentique événement populaire. C'est intéressant. Les audiences cartonnent à la télévision, c'est quand même plutôt pas mal. Nous aurons avec nous Thierry Théret qui est un historien du sport. Et vous verrez, ce sera sans doute très intéressant de voir avec lui à mi-parcours ce que ça raconte aujourd'hui de la société française. Voilà, d'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'œil du tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.